Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
Fiscally responsible. Financial geniuses. Monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Donc bonsoir à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde pour une émission très spéciale avec un entretien donc en anglais qui sera traduit dans quelques secondes dès qu'on commencera notre échange en anglais avec un invité de marque qui s'appelle le docteur E. Michael Jones pour présenter un ouvrage que vous allez voir à l'écran qui s'appelle Les guerres culturelles en Occident, traduit par Maria Poumier, édité par nos camarades des éditions du Verbe Haut. Mais on va pouvoir attaquer l'interview tout de suite. Petite information avant de continuer, cet enregistrement a été réalisé il y a environ 2 semaines, soit avant le début des opérations américano-israéliennes en Iran, mais notre invité l'anticipe et commente même déjà ses conséquences. Donc c'était juste pour vous prévenir, pour ne pas être étonné de certains propos et de certaines dates, mais je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Donc Dr. E. Michael Jones, merci beaucoup d'être présent sur ce podcast.
Je vous remercie, merci de me recevoir.
Alors, nous allons commencer par aborder, comme j'ai pu le dire en français, je ne sais pas si vous avez bien saisi tout ce que j'ai pu dire, mais nous allons parler d'un livre qui a été traduit ici, en France, par Maria Poumier. Maria Poumier, que nous saluons au passage, avec la maison d'édition Le Verbe Haut. Le livre s'appelle « Les guerres culturelles », avec un S qui sera, je pense, important pour créer toute la structure du sujet dont nous allons parler. Mais avant toute chose, j'aimerais pouvoir vous donner l'opportunité de vous présenter. Je sais que d'habitude, c'est moi qui devrais le faire, mais puisque vous allez pouvoir vous adresser à un public francophone, comment aimeriez-vous vous présenter spécifiquement à cette audience française qui pourrait vous découvrir aujourd'hui ?
Alors, tout d'abord, j'ai suivi des cours de français à Dijon pendant une période de 6 semaines, au cours de l'été 1974. J'aurais tellement aimé en avoir retenu bien davantage que ce que j'en ai réellement gardé. À cette époque-là, j'enseignais l'anglais en tant que langue étrangère à des étudiants allemands. Je suis retourné aux États-Unis et j'ai décidé de me pencher sur la littérature américaine parce que j'ai soudainement pris conscience que je ne comprenais absolument pas mon propre pays. Donc à ce moment-là, j'ai obtenu un doctorat en littérature américaine de l'Université Temple en 1979. J'ai trouvé un poste au St. Mary's College, juste en face de l'Université Notre-Dame, comme nous le prononçons, ou Notre-Dame, comme vous le prononceriez. Et j'étais prêt à enseigner la littérature américaine. Et j'ai été renvoyé de l'établissement un an seulement après mon arrivée là-bas, car j'étais opposé à l'avortement. Alors, je me suis dit, attendez une minute, comment puis-je être renvoyé d'une institution catholique pour être contre l'avortement ? La réponse à cette question est le féminisme. Le féminisme avait pris le contrôle des universités. Les révolutionnaires en avaient pris le contrôle. J'ai quitté le milieu universitaire et j'ai essayé de comprendre ce qui m'était arrivé. J'ai donc lancé un magazine intitulé Fidelity, qui était un magazine intra-catholique au sein de la communauté. Au début, je pensais que c'était une bataille entre libéraux et conservateurs au sein de l'Église catholique. Mais à un certain moment, j'ai réalisé que non. Il y avait en réalité des forces extérieures à l'Église qui la forçaient à adopter une certaine position. Le groupe principal que j'ai découvert à ce moment-là était la famille Rockefeller. Et j'ai alors pris conscience qu'il existait une sorte d'image, un véritable précédent historique pour cette situation. C'était en Allemagne, en 1871, et cela portait le nom de Kulturkampf. C'est pourquoi j'ai pris la décision de renommer la revue en « Guerre culturelle ». Nous parlons donc de qui mène une bataille pour déterminer qui va contrôler la culture aux États-Unis d'Amérique. Et il y a 3 candidats en lice. Je fais ici référence aux 3 groupes ethniques en Amérique, qui sont fondés sur 3 religions distinctes. L'Amérique ressemble à la Yougoslavie, vous savez, avec 3 groupes ethniques basés sur 3 religions. En Amérique, ce sont les protestants, les catholiques et les juifs. Et ce sont précisément ces forces-là qui se battaient pour prendre le contrôle de notre culture, en particulier après la Seconde Guerre mondiale. C'est de cette manière que j'ai commencé à m'impliquer dans les guerres culturelles.
Donc, Monsieur Jones, vous êtes un auteur prolifique, et nous allons surtout parler, comme je l'ai dit, du livre qui a été traduit en français. Je le montrerai d'ailleurs à nouveau à l'écran, et qui s'appelle « Les guerres culturelles en Occident ». Et je dois dire également qu'il y aura un code promotionnel spécial pour nos spectateurs ce soir, car c'est un livre qui est dangereux en France à cause de toutes les lois spécifiques que nous connaissons. C'est donc un ouvrage qui est très courageux, et une analyse tout aussi courageuse de l'ensemble de la situation que nous connaissons en Occident. Le code promotionnel sera simplement GPTV en minuscule. N'hésitez donc pas à commander ce livre, car il pourrait être censuré en raison des lois que nous avons. Commandez-le dès maintenant et surtout, lisez-le. Aussi, vous avez un nouvel ouvrage pour les personnes qui parlent et lisent peut-être l'anglais, intitulé « Walking with the Bible in the Gun, The Rise, Fall and Return of American Identity ». Tous ces ouvrages-là peuvent être trouvés sur fidelitypress.org. Mais comme je l'ai dit, j'aimerais pouvoir parler avec vous de cet ouvrage qui a été traduit en France et qui s'appelle donc « Les guerres culturelles » avec un S, comme j'ai pu le dire. Donc ma toute première question serait la suivante. Étant donné que nous évoquons ici plusieurs conflits, quelles sont précisément ces guerres spécifiques au pluriel que vous avez choisi d'identifier et d'analyser en profondeur dans votre ouvrage ?
Alors, il existe un principe fondamental qui englobe l'ensemble des guerres culturelles de cette période dont nous parlons ici. Et cela s'appelle l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale est née avec le livre de John B. Watson, Le Behaviorisme, juste après la Première Guerre mondiale. Elle est devenue la grammaire cachée de la gouvernance américaine après la Seconde Guerre mondiale. Avec comme stratégie, nous n'allons pas parler aux gens directement. Nous allons plutôt les manipuler pour qu'ils fassent certaines choses. Ainsi, les guerres culturelles se divisaient en deux volets. Le premier étant la destruction, avec le nettoyage ethnique des quartiers catholiques dans toutes les grandes villes situées au nord et à l'est des États-Unis, et ce, par le biais de l'immigration utilisée comme arme. La migration instrumentalisée venait des Noirs des États du Sud, comme le Mississippi, la Caroline du Nord et du Sud. Il faut savoir que la Fondation Ford a déplacé ces personnes dans des quartiers catholiques et a détruit ces quartiers. Et dans le même temps, nous avons l'autre volet de l'ingénierie sociale, donc l'autre aspect des guerres culturelles, à savoir l'érosion et la destruction de la moralité sexuelle aux États-Unis d'Amérique. J'ai donc écrit deux livres à ce sujet. Le premier s'intitule « Le massacre des villes, le renouvellement urbain comme nettoyage ethnique ». Le second ouvrage s'intitule « Libido dominandi, libération sexuelle et contrôle politique ». Et les essais qui ont été traduits en français par Maria Poumier sont extraits de ces deux sources qui sont absolument fondamentales. Alors ces guerres, c'était... Dans une ville comme Philadelphie, où j'ai grandi et où ma femme a grandi aussi, ces guerres étaient en fait de vraies guerres avec des fusillades. C'était les Noirs contre les Blancs. Des gens se faisaient tuer dans les rues. Et c'était la même chose à Chicago. Il y avait énormément de violence, vous savez ? C'était de véritables guerres, même si elles étaient plutôt discrètes et de faible intensité, mais bel et bien des guerres réelles où des personnes se faisaient tuer. Au même moment où les catholiques se battaient pour conserver leur quartier et leur mode de vie, leur moralité sexuelle était en train d'être minée de l'intérieur. Ça a commencé au moment de ma naissance. J'étais encore dans le ventre de ma mère quand le rapport Kinsey est sorti et a commencé à influencer les choses. Le rapport Kinsey a bénéficié du soutien des Rockefeller, et cela a contribué à une érosion absolument considérable de la moralité sexuelle. Et pas seulement aux États-Unis d'Amérique. Je dirais même que c'est encore plus vrai en Allemagne, qui est une autre victime de l'ingénierie sociale. Et vraiment, l'impact de l'ingénierie sociale en Allemagne est terrible. Le mot « rapport », pour le rapport Kinsey, est devenu un mot allemand. Ce n'est pas un mot allemand. Alors, quand j'enseignais dans ce petit village, en Allemagne, ils avaient un petit théâtre. Et soudain, nous avons eu ces films pornographiques softcore appelés Schulmädchenbericht. Der Schulmädchenbericht. Le mot allemand est Bericht et non rapport. Et c'était en fait, comment dire, c'était fondamentalement une tentative de détourner l'attention de la jeune génération, donc ma génération, celle des années 1960-1975, de les détourner donc, du terrorisme. Le Bundesnachrichtendienst en Allemagne, à cette époque, a mené une enquête auprès de jeunes de ma tranche d'âge, soit environ 25 ans à ce moment-là. Et pas moins de 80% des jeunes en Amérique ont déclaré qu'ils accueilleraient un membre de la bande Bader-Meinhof dans leur appartement et le logeraient pour la nuit s'ils le leur demandaient. De même, 85% de la jeunesse allemande sympathisait ouvertement avec la bande Bader-Meinhof. Et la pornographie a été créée dans le but de détourner ces personnes de leur engagement politique. C'est d'ailleurs précisément ce que fait la pornographie. C'est en tout cas ce qui s'est produit là-bas. Un événement similaire a eu lieu au Portugal, à peu près à la même époque. C'est le moment où la pornographie était utilisée comme une véritable arme pour anéantir toute opposition aux élites de la classe dirigeante.
Et donc, avec ce développement de la pornographie, nous avons vu apparaître de nouveaux ennemis, d'une certaine manière, dans différents domaines. Et nous avons maintenant, même si je pense qu'ils ont perdu beaucoup de pouvoir depuis quelques années, mais nous avons pu voir une montée qui était vraiment effrayante, d'une certaine manière, surtout aux États-Unis. On peut également dire qu'elle ralentit également en Europe. C'est avec le mouvement woke que nous avons aujourd'hui, qui est une conséquence d'ailleurs, je pense, de cette libération sexuelle et de tout le travail que nous avons avec la French Theory et ainsi de suite. Donc nous avons eu ce problème spécifique au sein de la société avec l'éducation sexuelle, également la façon dont la population était éduquée d'une manière propre à la modernité. Donc pouvez-vous nous en dire plus sur les autres guerres? Peut-être qu'un des sujets qui pourrait être abordé serait celui qui concerne, sachant que je sais que vous avez rencontré des difficultés quand vous avez parlé spécifiquement d'un problème avec l'ADL par exemple, et nous avons un peu le même type d'organisation en France quand vous parler des différentes batailles entre des personnes issues d'autres communautés ethniques.
Oui, alors, pour ce point. La bataille concernant la pornographie et l'obscénité en Amérique est fondamentalement une bataille entre catholiques et juifs. Il n'y a pas vraiment d'autre façon de le décrire. Alors, les juifs arrivent en Amérique vers les années 1890. Ils volent la caméra de cinéma de Thomas Edison. Ils déménagent à Hollywood et commencent à créer, à produire des films en série. Et le peuple américain est scandalisé par ces films parce qu'ils sont obscènes. Ils ridiculisent le clergé et des choses de ce genre. Alors, les protestants essaient de faire quelque chose, mais ils échouent. Et à ce moment-là, les catholiques ont commencé à faire quelque chose. On parle de l'année 1929 environ. Hollywood s'est endetté de manière considérable pour financer l'avènement du cinéma parlant. À ce moment-là, les catholiques interviennent et déclarent fermement « Écoutez, si vous persistez dans cette voie, alors nous boycotterons vos salles de cinéma. » Et ils l'ont effectivement fait. En 1931, le cardinal archevêque de Philadelphie a décidé d'organiser un boycott massif des cinémas Warner Brothers à Philadelphie. Harry Warner perdait ainsi 100 000 $ par semaine. Et ce, uniquement à Philadelphie. Et ce boycott menaçait de s'étendre partout, dans chaque grande ville qui possédait une importante population catholique en Amérique. Et donc les Juifs finissent par céder et acceptent finalement ce qu'on appelle le code de production, afin d'éviter des pertes encore plus importantes. Ainsi, pendant environ 31 ans, nous avions les catholiques qui contrôlaient Hollywood. Puis, en 1965, arrive la fin du Concile Vatican II. Avec Nostra Aetate, les Juifs saisissent leur chance et sortent le film Le Prêteur sur gage, qui est un film sur l'Holocauste. Et les catholiques, à ce moment-là, disent en substance, nous sommes en train de lire Nostra Aetate, et surtout, nous ne voulons pas offenser les Juifs. Et donc, ils ne condamnent pas le film, parce que c'est un film sur l'Holocauste, et les Juifs en profitent pour briser le code de production. Et en l'espace de 7 ans, nous avons de la pornographie hardcore dans les principales salles de cinéma du pays. Et ça s'est passé aussi vite que cela. C'est vraiment la bataille fondamentale là-dedans. Et après cela, ils ont brisé le code, la Cour suprême, etc. Les Juifs ont porté des affaires devant la Cour suprême. Et finalement, l'ensemble du cadre juridique pour poursuivre l'obscénité a été complètement détruit, sans laisser la moindre trace. Et enfin, le dernier clou du cercueil fut la loi sur la décence des communications, sous Bill Clinton, qui a permis à la pornographie de régner en maître sur Internet. C'est la véritable histoire. Il n'y a pas d'autre histoire ici, en Amérique.
D'accord, donc il y avait ce problème. Mais maintenant, il y a également le problème du mouvement woke, qui est un peu comme une sorte d'hydre à plusieurs têtes, avec notamment le mouvement Black Lives Matter. Ce qui peut nous amener à parler donc d'un autre problème que nous avons aujourd'hui et qui concerne le sujet de l'immigration de masse. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Est-ce que le problème de l'immigration de masse A-t-il à sa source le même ennemi, selon vous ?
Oui, on retrouve les mêmes ennemis. Alors, cette communauté juive, ou plutôt les frères Spingarn, ont créé une organisation qu'ils ont nommée la National Association for the Advancement of Colored People, la NAACP. Cette organisation a été créée à la suite du lynchage de Leo Frank afin d'encourager un soulèvement d'esclaves. Je veux dire, il n'y avait techniquement pas d'esclavage, mais ils essayaient de créer un soulèvement d'esclaves dans le Sud, et finalement, ils ont réussi. Et ça a été appelé le mouvement des droits civiques. Ce mouvement des droits civiques fut un véritable soulèvement. On peut dire que c'était l'Alliance judéo-noire. Et ils l'ont créé pour renverser les lois dans le Sud, puis cela s'est étendu à d'autres institutions. Encore une fois, j'insiste, vous ne pouvez absolument pas comprendre ces évolutions si vous ne saisissez pas la grammaire ethnique cachée de l'Amérique, et qui repose sur les groupes protestants, catholiques et juifs, avec ces groupes qui se disputent farouchement le contrôle de la culture. Donc ensuite, au cours...
How to have fun, anytime, anywhere. Step 1, go to ChumbaCasino.com.
ChumbaCasino.com, got it.
Step 2, collect your welcome bonus.
Come to Papa, welcome bonus.
Step 3, play hundreds of casino-style games for free.
That's a lot of games, all for free?
Step 4, unleash your excitement.
Chumba. Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com.
De cette période, ce que nous avons pu voir, c'est que la montée de la révolution sexuelle a correspondu exactement au pillage capitaliste de la classe ouvrière, comme si les deux phénomènes étaient liés de manière inextricable, vous voyez. Ça s'est produit exactement au même moment, par le même groupe de personnes. Le point de bascule est arrivé en 1973. C'est cette même année que les salaires ont cessé d'augmenter. Cette même année, celle où l'avortement a été légalisé en Amérique. Et à cette époque-là, des gens comme moi étaient confrontés à la révolution sexuelle, mais nous étions complètement aveugles au fait qu'une révolution économique se déroulait en coulisses, sans que nous nous en rendions vraiment compte. Donc, 1973, c'est précisément l'année où la carte de crédit a été introduite en Amérique. Et à partir de 1973, sur les 20 années suivantes, disons jusqu'aux années 90, des milliers de milliards de dollars ont été retirés des poches de la classe ouvrière et transférés entre les mains des spéculateurs de Wall Street, précisément dans celle du 1%. Et comme ils ont accumulé énormément d'argent, ils ont utilisé leurs organisations, comme l'AIPAC, comme l'ADL, que vous avez déjà mentionné, pour prendre le contrôle du gouvernement, tout simplement. Et à présent, ils exercent un contrôle total sur notre gouvernement. Et la preuve irréfutable de cela est que nous nous dirigeons vers la guerre finale au Moyen-Orient, où l'administration Trump est prête à entrer en guerre avec l'Iran, uniquement pour apaiser Benjamin Netanyahu. Et peut-être parce qu'il détient des dossiers compromettants sur Jeffrey Epstein ou quelque chose de ce genre. Voilà la crise que traverse l'Amérique en ce moment.
On va pouvoir revenir sur ce point dans quelques instants. Vous parliez de grammaire cachée et je voudrais donc vous parler maintenant d'Emmanuel Todd. Peut-être que cela va surprendre les spectateurs du fait que nous parlions en anglais d'un intellectuel français et également plus tard d'un autre intellectuel. Nous parlerons d'Alain Soral. Donc, dans votre livre, vous analysez le travail d'Emmanuel Todd et plus spécifiquement la partie où il parle de satanisme et également de grammaire cachée.
Alors non, ce n'est pas exactement ça. Je vais m'expliquer. J'ai lu ce livre, Le défi de l'Occident. C'est un excellent ouvrage et il y développe un argument vraiment très pertinent. Ce qu'il affirme, c'est que l'Empire américain est en train de s'effacer parce que la grammaire cachée de cet Empire américain, c'est fondamentalement le protestantisme. Et le protestantisme est en train de s'évaporer. C'est la vérité. C'est une vérité absolue. Et maintenant, comme je l'ai dit, aux États-Unis, les protestants étaient le groupe ethnique dominant. C'est une colonie anglaise, c'en était une en tout cas. Et donc, ce qui se passe quand les protestants commencent à disparaître, c'est qu'on a une crise d'identité. Nous traversons tous cette crise d'identité. Alors, jusqu'à présent, tout va bien avec le livre d'Emmanuel Todd. Et ensuite, il se demande, comment comprendre le protestantisme ? Et il fait appel à Max Weber. C'est une erreur. N'allez surtout pas lire Max Weber. Il ne sait rien. Il ne comprend absolument rien. Si vous voulez vraiment suivre cette voie, lisez plutôt le livre de Werner Sombart, Les Juifs et le capitalisme. Un livre bien supérieur. Weber a écrit son livre pour en quelque sorte masquer ce livre-là. Il existe donc bien une grammaire cachée au sein du protestantisme, mais on ne peut vraiment la connaître qu'en lisant de la poésie. Et le poème dont je parle est précisément celui de Milton, « Le paradis perdu » de John Milton. Vous ne pouvez absolument pas comprendre la grammaire cachée de l'Amérique à moins de lire l'œuvre emblématique « Le paradis perdu ». Et je fais référence spécifiquement au début du paradis perdu, au moment précis où Satan se réveille en enfer et qu'il prononce son célèbre discours aux démons dans le but de les inciter à se soulever contre leur destin. L'esprit est son propre lieu, et nous sommes déjà en enfer, donc ça ne peut pas être pire. Et puis il dit « Mieux vaut régner en enfer que de servir au ciel ». C'est cela, l'identité américaine. Le cœur des Américains bat plus vite quand ils entendent ce genre de choses. C'est absolument satanique. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire cela. Maintenant, au moment de notre déclaration d'indépendance, donc nous parlons bien de l'année 1776, il faut savoir que chaque homme qui a signé ce document historique d'indépendance connaissait parfaitement le discours de Satan dans le paradis perdu de John Milton, et cela influençait profondément leur vision du monde et de la liberté. On peut donc remonter à Thomas Jefferson, qui a pu lire le poème lui-même. Benjamin Franklin lisait également ce poème. Vous avez John Adams, qui était le conservateur parmi eux, qui lisait aussi directement le poème. Mais toutes les autres personnes qui l'ont signé étaient influencées indirectement parce que le pamphlet le plus célèbre jamais écrit aux États-Unis était « Common Sense » de Tom Paine, et il cite abondamment le discours de Satan tout au long de son pamphlet. Donc voilà ce que je dis. C'est une bonne chose que Todd ait compris que le protestantisme est la grammaire cachée, et il utilise bien le mot « satanique » dans son livre. Mais c'est ça la vraie grammaire cachée. Elle est construite dans son paradis perdu.
Maintenant, j'aimerais pouvoir aborder plus en détail ce qui se passe actuellement aux États-Unis avec le second mandat de Donald Trump. La deuxième administration est en fonction en ce moment même aux États-Unis et nous pouvons observer ce que beaucoup de gens croient être, assister à une véritable révolution intérieure au sein même du territoire au regard des nouvelles politiques qui sont appliquées. Et nous avons vécu et observé tellement de choses que je dois dire, cela a d'abord permis de restaurer la confiance et la foi, quelque part, de nombreux citoyens en France avant les semaines récentes, parce que nous avons observé donc un président américain qui se concentre sur les intérêts personnels de sa population, apparemment. Alors que pourriez-vous nous dire à propos de Donald Trump? Parce que je sais que dans votre ouvrage, et plus particulièrement ce qui se concerne son premier mandat, vous avez été vraiment très critique à son égard. Alors, quelle est précisément votre analyse de Donald Trump, tout d'abord de l'intégralité de sa carrière politique, et que pouvez-vous anticiper concernant cette nouvelle administration? Avez-vous vu une autre façon de voir les choses, ou faites-vous toujours confiance à votre analyse, et êtes-vous encore plus peut-être, je dirais pas brutal, mais confiant sur la critique que vous aviez énoncée envers Donald Trump et son administration?
C'est quelque chose que les Français comprendront parfaitement, mais que les Américains ne pourront absolument pas saisir. Nous avons eu trois républiques. Les Français, eux, le comprennent. Les Américains, par contre, n'ont jamais compris qu'ils ont eu des républiques. La première république commence en 1781 avec la Constitution. Celle-ci prend fin en 1861 avec la guerre civile. Rien ne dure plus de 80 ans, vous savez. D'ailleurs, l'esclavage n'est pas passé de la première république à la seconde république. La seconde république débute en 1865, donc avec la fin de la guerre de sécession, et ensuite elle s'achève en 1945, avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et nous assistons maintenant au début de la Troisième République, où l'Amérique que l'on connaît émerge sur la scène mondiale et deviendra, finalement, l'unique hégémon du monde. Maintenant, quelles sont les institutions à noter? Les Nations Unies sont l'institution principale de la Troisième République. Elle était censée empêcher la guerre, pas en provoquer davantage. Nous arrivons à présent à la fin de la Troisième République. Je vous dis ce que je pense. 2025 marque pour moi la fin de la Troisième République. Nous naviguons vers une nouvelle République, vers des eaux totalement inexplorées. Et donc, le New York Times a réalisé une interview avec Donald Trump et l'intervieweur lui a posé cette question directe. « Respectez-vous le droit international ?» À cela, Trump a répondu sans la moindre hésitation « Non ». Puis, le journaliste a poursuivi en demandant « Eh bien, qu'est-ce que vous respectez alors ?» Et il a répliqué « Ma propre pensée. C'est absolument satanique. » Il faut comprendre que c'est précisément ce que Satan a déclaré. L'esprit est son propre royaume. C'est là pour moi le pur satanisme américain. Et donc, il n'a d'autre guide que sa propre pensée, et nous naviguons en ce moment même dans des eaux totalement inexplorées. C'est là le problème fondamental de la République américaine à l'heure actuelle. Et personne ne sait vraiment où tout cela va nous mener. Quand on fait le bilan, les communautés protestantes sont en train de disparaître. Nous assistons à un conflit entre catholiques et juifs sur l'existence d'une loi morale universelle et le gouvernement ignore ces profonds changements. Vous comprenez ?
Nous sommes maintenant face à la situation que nous appelons l'affaire Epstein, avec des dossiers, ce qui est une situation complètement folle, même ici en France, parce que nous observons les médias mainstream qui ont choisi de ne pas se pencher sur les différentes découvertes que nous avons faites, particulièrement avec ces nouveaux documents, donc des millions de documents qui sont désormais accessibles au grand public, même s'ils sont en grande partie censurés pour la plupart d'entre eux. Donc, dans les médias français, on ne cherchait même pas à trouver une piste spécifique. On parlait de la connexion russe d'Epstein, de la mafia russe, ce qui, je trouve d'ailleurs, assez amusant quand on essaie de creuser un peu toute l'affaire d'Epstein. Alors, quel est votre avis sur les dossiers Epstein ? Et surtout, étant donné que nous parlons de Donald Trump et de son administration, que pensez-vous de la manière dont cette administration gère cette situation et plus particulièrement de la communication de Donald Trump en ce moment?
Alors, j'ai deux ouvrages qui décortiquent en profondeur la grammaire cachée des dossiers Epstein. Le premier s'intitule « Libido dominandi », libération sexuelle et contrôle politique. À l'intérieur, il est question de chantage. Il est question d'Adam Weishaupt ainsi que de la Zalen Anelusa, ou comment Weishaupt parvenait à contrôler les gens par la manipulation de leurs passions. Et j'ai également écrit « L'esprit révolutionnaire juif ». Et pour moi, ces deux éléments se retrouvent aujourd'hui réunis dans les dossiers Epstein. Car on y trouve, selon moi, une cabale d'une partie de la communauté juive qui vise essentiellement à attirer des personnes dans des activités sexuelles compromettantes, les photographier, puis ils s'en servent comme moyen de chantage pour extorquer du pouvoir politique à ces individus. Nous disposons également de cela, une fois de plus, pour revenir à Satan, qui pourrait être considéré comme le saint patron officieux de l'Amérique. Steve Bannon est en train d'introduire quelqu'un. Enfin, c'est l'une des vidéos qui a récemment fait surface et qui illustre.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at chumbacasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See T&Cs. 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Illustre bien ce point. Il interviewe Jeffrey Epstein et lui demande « Êtes-vous Satan ?» Et Jeffrey Epstein répond « Non, non, je ne suis pas ça. » Là, Bannon lui dit « Eh bien, vous êtes vraiment intelligent. » Et vous avez Epstein qui répond « Eh bien, je ne savais pas que j'étais si intelligent. » Puis Bannon arrive à la conclusion, et là, il commence à citer le discours de Satan dans le Paradis perdu. Et donc voilà, c'est bien de cela qu'il s'agit, la fameuse grammaire cachée. Ce n'était au départ qu'une notion purement théorique. Ainsi, vous avez une figure comme Ralph Waldo Emerson, le penseur américain de premier plan. Il a écrit un essai intitulé « La confiance en soi » dans lequel il dit « Rien n'importe que l'intégrité de votre propre esprit ». Et quelqu'un lui dit « Eh bien, et si cela venait d'en bas ?» Et il répond « Si cela vient du diable, alors je suis du parti du diable ». Et il essaie de rester fidèle à sa femme. Et il est allé en Angleterre et il s'est retrouvé à se disputer avec Charles Dickens et Thomas Carlyle, qui affirmaient que la moralité sexuelle avait disparu. Et il supposait que la même chose se produirait en Amérique. Et Emerson a simplement répondu « Non. Si vous ne comprenez pas que chaque Américain se rend à son lit conjugal en tant que vierge, alors vous ne comprenez pas l'Amérique. » Voilà, c'est là le type de statut exceptionnel de l'Amérique. Et Tocqueville l'a remarqué quand il est devenu aux États-Unis dans les années 1830, à savoir l'influence de la religion sur l'Amérique. Ce qui s'est produit durant cette période, c'est la destruction du consensus moral qui unissait le peuple des États-Unis d'Amérique. Et cela s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, et le principal groupe responsable de cela, pour moi, était une partie de la communauté juive, avec leur promotion de l'avortement ou encore de la pornographie et de toutes les autres choses.
Donc si on suit votre analyse, que répondriez-vous à quelqu'un qui dirait « Ok, j'accepte la situation et cette analyse, mais maintenant, nous avons les dossiers Epstein qui deviennent de plus en plus publics, et la vérité se révèle petit à petit. Avec toutes ces situations sous la seconde administration de Trump. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire que Trump, au regard de cette situation, eh bien, quelque part, combat cette cabale, qu'on pourrait dire juive, ou cette cabale israélienne, puisque tout est en train de sortir au grand jour?
Non, il est entièrement sous l'emprise de la cabale juive. Il est complètement contrôlé. Il y avait un élément de doute durant la première administration, car il n'arrêtait pas de dire « l'Amérique d'abord ». Et j'ai voté pour lui parce qu'il disait ça, « l'Amérique d'abord ». C'était ce que nous devions faire. Par contre, dès qu'il est arrivé au pouvoir, c'est devenu Israël d'abord. Et la deuxième administration, à cet égard, est bien pire que la première administration. Bien pire. Il est en réalité bien plus contrôlé. Beaucoup de gens disent qu'il est compromis par les dossiers Epstein lui-même. Il connaissait certainement Epstein, vous comprenez? Bon, il était assurément ami avec lui. Il fréquentait les mêmes cercles sociaux à New York. Il était bien présent aux soirées en question. Maintenant, la question qui se pose est de savoir dans quelle mesure exacte il a participé à ces orgies qui s'y déroulaient et jusqu'où cela est allé. L'évolution ici, c'est que l'Amérique est passée d'un satanisme philosophique théorique à un satanisme pratique bien réel, et c'est précisément la preuve irréfutable, selon moi, qui ressort des dossiers Epstein. Ils étaient en fait impliqués dans des pratiques qui, pour moi, illustrent parfaitement ce basculement. Alors, je pars du principe que ce que j'entends est vrai, qu'il s'agissait de la torture d'enfants, du meurtre d'enfants. C'était tous des rites sataniques. Je ne suis pas en train d'exagérer, je ne veux pas le faire, mais je le pense. Et c'est ce que nous entendons ici, en ce moment même. Et c'est un point important pour moi, car je dis qu'il y a une cohérence profonde dans l'identité américaine qui a conduit directement à ce problème. Et maintenant, nous allons devoir faire face à ce problème, un problème vraiment sérieux, car l'ensemble du groupe d'élite en Amérique a été complètement discrédité. L'une des premières victimes est Bill Gates. Je ne sais pas si vous avez vu le dossier sur Bill Gates. Il écrit à Epstein en disant « Je viens de contracter une maladie vénérienne de l'une des adolescentes russes que vous m'avez fournie. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un antibiotique? Je ne veux pas infecter ma femme. » Donc là, je pose la question. Allons-nous permettre à cet homme-là de créer une autre pandémie? Va-t-on vraiment le suivre quand il dira « Maintenant, vous devez prendre une dose » alors qu'il s'avère que le dernier produit qu'il a promu a eu tellement d'effets néfastes? N'oubliez pas qu'il est même banni d'Afrique et d'Inde, parce que les doses qu'il y a promues étaient en réalité des agents avec des effets stérilisants. C'est une crise qui se déroule en ce moment même, et personne ne semble avoir la moindre idée de la direction à prendre. Et Donald Trump a déclaré en substance « Je suis le chef de l'État, je suis celui qui pilote le navire et je ne crois pas aux cartes. Je ne suivrai pas l'étoile. La seule chose que je suivrai, c'est mon propre esprit. » Cela vous montre à quel point la situation mondiale est précaire en ce moment.
Donc l'été dernier, on a eu une situation réellement dangereuse avec de nombreuses tensions entre Israël et l'Iran. Et maintenant, nous avons toujours cette situation complexe, délicate, qui pourrait devenir pour nous un conflit à plus grande échelle. Quand je dis « nous », je parle des États-Unis qui pourraient très bientôt se retrouver en guerre face à l'Iran, parce que nous avons des négociations qui sont extrêmement étranges, je dois dire. Mais nous avons aussi eu pendant un certain temps, des mois même, une situation avec la Palestine. Comment analysez-vous la gestion de Donald Trump pour tout ce qui concerne la situation au Moyen-Orient ?
C'est un désastre. C'est un véritable désastre. Commençons par le commencement. Il a promis de mettre fin à la guerre en Ukraine en seulement 24 heures. Et il aurait pu y arriver sans problème s'il avait pris ses responsabilités et traité honnêtement avec Poutine. Malheureusement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et puis, la crise suivante qui se présente est le génocide à Gaza. Tout cela est réalisé avec des bombes américaines, de l'argent américain, des armes américaines, et le peuple américain se sent complètement impuissant face à cette situation. Ils ne sont pas d'accord avec ce que Netanyahou est en train de faire là-bas, mais le gouvernement ne les écoute absolument pas. Le gouvernement est contrôlé par des groupes comme l'AIPAC, et c'est précisément ça le problème. Alors ce que vous voyez maintenant, c'est que s'ils décident de mener cette guerre contre l'Iran, ça va être absolument catastrophique, et cela détruira complètement son administration. Il ira probablement en prison une fois que les républicains seront chassés du pouvoir. Il y aura certainement un autre processus de d'impeachment et il pourrait bien être condamné cette fois-ci. Ce sera donc un véritable désastre pour Donald Trump, mais également pour l'Amérique entière.
Alors, nous avons parlé des guerres culturelles en Occident, mais là, nous avons surtout parlé des États-Unis. Et j'aimerais que l'on puisse échanger maintenant plutôt sur le sujet de la France ainsi que de l'Europe. La France, parce que dans votre livre, sachant que nous savons déjà que vous répondez à Emmanuel Todd à travers son livre « La défaite de l'Occident », mais vous écrivez aussi sur Alain Soral. Alain Soral qui est un intellectuel français, attaqué pour ses idées, également aujourd'hui exilé en Suisse, puis en Russie. On l'a d'ailleurs reçu il y a quelques semaines. Donc, que pouvez-vous nous dire sur la situation en France et en Europe à travers les guerres culturelles? Et d'ailleurs, quelle est pour vous la guerre que vous pouvez considérer comme étant la plus importante qui se joue actuellement en France et en Europe?
Alors, vous savez, j'ai rencontré Dieudonné à Téhéran. Et Dieudonné travaillait en collaboration avec Alain Soral au sein de l'organisation connue sous le nom d'Égalité et Réconciliation. Et le coup de génie de tout cela, c'est qu'il avait compris que leur présence était absolument indispensable, que si l'on voulait vraiment briser la puissance oligarchique, il fallait impérativement intégrer les musulmans à ce processus. Et il tentait, à l'époque, de travailler main dans la main avec la communauté musulmane. C'est pour moi une étape vraiment importante, car ce que l'on observe actuellement en Occident, et plus particulièrement en Angleterre. D'ailleurs, je ne sais pas si les Français sont familiers avec Tommy Robinson. Il faut savoir que Tommy Robinson est un agent provocateur financé par des groupes sionistes et qui soutiennent Tommy Robinson afin de créer de l'animosité entre les musulmans d'Angleterre et les chrétiens, ou les natifs, peu importe comment on les appelle. La même chose se produit aux États-Unis maintenant. Le Tommy Robinson américain est un gars nommé Jake. Quel était son nom exact déjà ? Bref, un type se pointe à Dearborn, qui est la ville la plus musulmane d'Amérique, avec une tête de porc, ou plutôt, non, du bacon, voilà, et un Coran, en barbouillant un truc dessus. Bref, je pense que ce que nous devons vraiment faire, c'est créer une alliance, promouvoir cette alliance catholico-musulmane, vous voyez ? Et je crois que j'ai tiré cette idée d'Alain Soral et de Dieudonné, de leur collaboration en France. Maintenant, je vais vous dire. J'étais en désaccord avec Soral sur un point très précis. Je pense qu'il faut absolument, ici, raisonner en termes religieux. Et je crois que la grande question, celle qui reste encore irrésolue, c'est celle du statut du catholicisme en France. La France a bien eu sa révolution. Et ça, vous le saviez déjà, n'est-ce pas ? L'Église catholique a publié une série d'articles détaillés sur la Révolution française dans Civiltà Cattolica, qui est la revue officielle du Vatican. Cela a paru précisément à l'automne 1890. C'est une analyse vraiment brillante et perspicace. En substance, qu'avons-nous ? Qu'a la France à montrer après 100 ans de révolution ? Et la conclusion est vraiment, pour moi, stupéfiante. Elle dit ceci : tout pays qui se détourne des lois créées par un roi chrétien sera gouverné par des juifs. C'est là exactement leur verdict sur la France. C'est, selon moi, précisément ce qui est arrivé aux États-Unis d'Amérique. Et je pense que c'est de cette manière que nous devons aborder cette question. Je pense vraiment que c'est fondamentalement une question religieuse. Donc ensuite, je ne connais pas la composition exacte de l'Église catholique en France. Malheureusement, je ne la connais pas aussi bien que je le devrais, je dois dire. Mais en tout cas, je sais que l'Église catholique en Allemagne est faible en ce qui concerne la représentation des intérêts du peuple allemand. Et je sais également que l'Église catholique en Amérique est faible pour représenter les intérêts des catholiques américains. Et pour moi, ils sont davantage intéressés à appeler.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
Sponsored by Chumba Casino.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Aider les membres de la communauté juive qu'à soutenir leur propre peuple. Un exemple classique s'est produit la semaine dernière, au moment où l'on enregistre. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'histoire de Carrie Bowler. C'est une dame de confession catholique, d'accord ? Elle est appelée à témoigner devant le comité de Trump sur la liberté religieuse, et elle entre dans la salle, et là, elle déclare « Je suis catholique ». Je ne soutiens pas le sionisme, et vous ne pouvez pas imposer votre sionisme à ma religion. Maintenant, c'est beaucoup plus fort parce qu'elle est catholique. Elle aurait pu dire, si vous comprenez l'expression, « Je suis une reine de beauté ». Elle est une reine de beauté. Je suis conservatrice. Je viens de Californie. Elle aurait pu dire, « Je suis une femme ». Elle aurait pu dire n'importe laquelle de ces choses, et cela n'aurait pas eu le même impact, l'impact qu'elle a eu parce qu'elle a déclaré être catholique. Parce que maintenant, il y a un groupe qui peut s'opposer à cet autre groupe et dire, « C'est votre religion. Ne m'imposez pas votre religion. Et d'ailleurs, je suis américaine. N'imposez pas non plus votre religion aux États-Unis d'Amérique. C'est le moment absolument crucial que vit l'Amérique en ce moment. Je ne sais pas s'il y a un moment similaire en France actuellement. Vous devrez me le dire. »
J'aurais maintenant une question sur l'essence des différents mots qui sont employés. On vous avez pu parler, vous, directement des juifs. On a pu parler du sionisme. On sait, par exemple, qu'Emmanuel Todd, dans son ouvrage, utilise un autre terme qui s'appelle le blob. On a également le terme néoconservateur qui devient de plus en plus populaire en France et qui est déjà aux États-Unis. Donc, ma question est simple, comment est-ce que vous analysez l'utilisation de ces différents mots? Est-ce que vous considérez que certains ne sont pas assez précis pour désigner l'ennemi constitué dans votre livre?
Absolument. C'est précisément le point. Sun Tzu a dit, « Si vous ne savez pas qui vous êtes et que vous ne pouvez pas identifier l'ennemi, alors vous perdrez chaque bataille. » Nous devons donc absolument avoir les bonnes catégories. Et le sionisme ainsi que le mot « juif » ne sont pas synonymes. OK? Le sionisme est une idéologie juive. Dans la zone de résidence, il y avait deux grandes idéologies juives qui s'affrontaient. L'une d'elles était le communisme, le bolchevisme ou le socialisme, ce qui représente l'internationalisme juif. L'autre, c'était le sionisme, qui incarne le nationalisme juif. Nous avons ces deux aspects de cela en Amérique, et ce que nous avons, c'est le bolchevisme culturel, qui est responsable de l'avortement, de la pornographie et de toutes les autres choses que j'ai mentionnées. Et de l'autre côté de l'équation, nous avons le sionisme politique, qui est maintenant en pleine ascension. Mais, selon moi, il vous faut absolument connaître l'expression « les Juifs » pour bien saisir comment tous ces éléments s'articulent entre eux. Parce que ceci est un terme que je tire de l'Évangile. Lorsque j'ai rédigé mon ouvrage qui s'appelle « L'esprit révolutionnaire juif », il m'a fallu me replonger dans l'Évangile. Car, selon moi, c'est là le début de ce conflit. Le Messie, Jésus-Christ, arrive sur cette terre, et les Juifs de l'époque doivent l'accepter selon ses propres conditions. Les Juifs qui agissent de cette façon sont appelés chrétiens. Les Juifs qui, par contre, le rejettent et le mettent à mort sont appelés juifs. Vous me suivez? Ils ont donc tous les deux le même ADN. Ce n'est pas... L'antisémitisme est d'ailleurs une désignation raciale qui n'a absolument aucun sens ici, à ce moment décisif de notre histoire. Donc, les Juifs qui ont rejeté Jésus-Christ l'ont tué. Jésus-Christ est le Logos incarné. Le Logos est Dieu. Quand on se rebelle contre le Logos, on se rebelle contre l'ordre même de l'univers et on devient inévitablement des révolutionnaires. C'est exactement ce que, pour moi, les Juifs ont été. C'est ainsi que je perçois l'identité juive depuis 2000 ans. Et cela perdure jusqu'à ce jour. Ce sont des révolutionnaires. C'est l'esprit révolutionnaire juif. C'est de cela que j'ai parlé. Alors, quand vous dites les Juifs, à cette époque, voulez-vous dire tous les Juifs? Non, évidemment, vous ne voulez pas dire tous les Juifs. C'est une nostra aetate. La Sainte Vierge ne s'est pas tenue devant le crucifix, le Christ pour dire « crucifiez-le ». De même, Saint Jean n'a pas dit « crucifiez-le ». Ces personnes étaient pourtant biologiquement juives. C'est un point vraiment important à souligner. Mais ce n'étaient pas les Juifs, au sens où le peuple juif dans son ensemble aurait rendu un jugement officiel par leur tribunal et aurait fait tuer Jésus-Christ. Nous devons absolument maintenir cette distinction. Nous devons vraiment la comprendre. Alors quand j'étais à Machad, le rabbin David Weiss était là. J'ai dit, nous devons briser le tabou sur le sens du mot « les Juifs ». Nous devons identifier clairement ce dont nous parlons. Et j'ai ajouté, mais si tous les Juifs étaient comme le rabbin Weiss, membre de Netura Ekarta, un juif orthodoxe, anti-sioniste. J'ai déclaré, si tous les Juifs étaient comme lui, alors nous n'aurions aucun problème. Mais ce n'est pas le cas. Il faut identifier le problème exactement. Nous devons utiliser les bons termes pour réussir à avoir une analyse claire, selon moi.
Mais donc, juste pour être clair, à la fois pour le public, mais également parce qu'on connaît la situation en France et les règles qui existent, vous parlez finalement un peu comme Alain Soral, d'une certaine manière, car il en parle dans « Comprendre l'Empire », ainsi que d'autres ouvrages, du fait qu'il s'agisse d'un groupe spécifique au sein de la population juive, où ils ont une vision extrémiste et religieuse du monde. Je pense qu'il est important de pouvoir prendre du temps à peut-être plus détailler ces termes-là, parce que sinon, si ce n'est pas précisé de cette manière, il pourrait y avoir de la confusion. Et d'ailleurs, on pourrait malheureusement dire la même chose aujourd'hui des musulmans, par exemple, car nous savons qu'il existe des extrémistes dans l'islam. Mais nous ne voulons pas dire que tous les musulmans seraient des terroristes, par exemple. Et je pense que il est important, surtout en France, de pouvoir faire cette distinction. Donc, pouvez-vous dire aux gens qui nous écoutent, de manière plus précise, ce que vous entendez par ces termes-là?
Je vais juste vous clarifier les termes. Revenons-en à l'Évangile, à la Bible. Donc, qu'a dit Saint Paul? C'est d'ailleurs Carrie qui l'a cité devant ce panel. Les Juifs, 1 Épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Les Juifs sont le peuple qui a mis à mort le Christ, et ils sont les ennemis de l'humanité tout entière. » Alors, elle a dit cela au panel, et a demandé, « Est-ce que cela fait de moi une antisémite ?» Eh bien, en fait, oui, absolument. Parce que, comme je le pense, des Juifs contrôlent désormais une partie du pouvoir politique, et aujourd'hui, l'antisémitisme est tout ce que les Juifs n'apprécient pas, y compris ces passages de la Bible. Ces Juifs, comme je l'ai expliqué, sont les personnes qui ont tué le Christ. Et ils constituent aujourd'hui une entité politique bien organisée, qui d'ailleurs contrôle la grande majorité du peuple juif, en les maintenant sous son emprise par la peur, principalement. Quelqu'un qui a compris cela était Israël Shamir, qui était dans Tsahal pendant la guerre de 1973, et il a dit « Les grands juifs utilisent les petits juifs comme boucliers humains pour faire avancer leur propre programme. » J'ai rencontré une femme israélienne qui pensait que j'étais un véritable trésor national. Elle aime beaucoup lire mes écrits. Elle a raconté qu'elle était venue d'Israël, qu'elle était arrivée à New York. Dès qu'elle est arrivée ici, l'AIPAC l'a emmenée à leur conférence et a commencé à semer la peur. Elle n'avait jamais ressenti cela quand elle était en Israël, mais maintenant qu'elle est aux États-Unis, c'est cette peur constante. Elle était tellement consternée par cela qu'elle est partie et est montée dans sa chambre et n'est plus jamais redescendue. Vous arrivez à imaginer? C'est le type de situation que nous avons. Il faut donc, je pense, nommer le peuple juif. Il existe une entité politique qui exerce un pouvoir imprégné de judaïsme, que personnellement je désigne comme les Juifs ou le peuple juif, et c'est là, pour moi, que réside fondamentalement le problème. Parce qu'on n'a même pas le droit de dire qu'ils existent, encore moins de les critiquer.
Principalement en France, d'ailleurs, où nous avons des lois spécifiques qui nous interdisent de le faire, sinon nous serions poursuivis en justice. Mais avec tout ce que vous venez de dire à propos de cette organisation politique, la cabale juive, la manière dont Donald Trump travaille actuellement, c'est-à-dire où il œuvre dans l'intérêt d'Israël, etc., nous avons des tensions avec l'Iran, avec la Palestine, avec de nombreux pays du Moyen-Orient. Donc, ma question est simple, que pensez-vous qui pourrait se passer dans les prochains mois, voire années, avec la situation en Israël?
Je dis qu'Israël aura cessé d'exister d'ici 2 ans. Vous vous souvenez, j'avais parlé de 80 ans? Ehud Barak dit la même chose. Ehud Barak est omniprésent dans les dossiers Epstein liés à Israël, d'ailleurs. Il est complètement compromis par les dossiers Epstein. Mais lui, je crois que c'est vrai. Il y a vraiment comme un spectre qui hante l'Europe. C'est d'ailleurs ce que Karl Marx a dit. Il y a un spectre qui hante Israël, et c'est la malédiction des 80 ans. C'est comme ça qu'il l'appelle, la malédiction des 80 ans. Comme je l'ai dit, dans l'histoire humaine, rien ne dure plus de 80 ans. Et j'ai le même âge qu'Israël. Je suis né en 1948. Israël est né en 1948. Là, en 2028, je prédis que le pays va disparaître, complètement, sans laisser de traces. Maintenant, je prédis personnellement que cela va s'effondrer très rapidement, sans le moindre doute, si Trump décide d'attaquer l'Iran. Je pense que ce sera véritablement la fin d'Israël. Ce que nous avons vu lors de la guerre de juin, c'est qu'Israël ne pouvait tout simplement pas arrêter les missiles hypersoniques de l'Iran, malgré tous leurs efforts. Ils n'ont pas besoin d'armes atomiques du tout. Ils ont des missiles capables de détruire Tel Aviv sans aucune difficulté, et avec une précision redoutable. Netanyahou a dû littéralement supplier Trump d'obtenir un cessez-le-feu parce que les Israéliens étaient en train d'être détruits par une attaque symbolique qu'ils ne pouvaient pas arrêter, malgré tous leurs efforts. Il n'y a actuellement aucune défense efficace contre les missiles hypersoniques qui représentent une menace insurmontable. C'est précisément la crise qui se déroule dans le golfe Persique en ce moment même. Nous avons 2 porte-avions déployés là-bas. D'ailleurs, les porte-avions sont un produit direct de la Troisième République. C'est une technologie militaire par conséquent obsolète, qui a vu le jour à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ils sont désormais complètement dépassés face aux missiles hypersoniques. Donc pour moi, ce sera la fin. Nous aurons soit une fin rapide et violente pour l'Empire américain et pour Israël, ou alors une fin progressive. Mais dans tous les cas, ils arriveront tous les deux à leur terme.
Et je dois aussi dire aux personnes qui nous écoutent et qui vont acheter et lire le livre en français, d'ailleurs, je le répète, que vous avez accès à un code promotionnel sur cet entretien, avec marqué tout simplement GPTV en minuscule sur le site des éditions du Verbe Haut, pour bénéficier voilà, d'une réduction spéciale si vous souhaitez lire l'intégralité du livre, qui donc contient de nombreux textes sur différents sujets, qui parlent même de Benjamin Netanyahou, par exemple. Nous savons donc que l'influence de Benjamin Netanyahou s'affaiblit. Nous savons qu'Israël, nous pouvons le sentir, la guerre avec l'Iran, parce que nous savons, par exemple, que le Dôme de Fer a échoué lors de la guerre des 12 jours. La situation est donc vraiment critique pour Israël en ce moment. Et même la population en Israël n'est pas favorable à Benjamin Netanyahou. Mais j'ai une question, puisque nous avons parlé des dossiers Epstein. Pensez-vous que le lobby sioniste, nous avons parlé de l'AIPAC, par exemple, perd lentement du terrain ? Ou pensez-vous qu'il a de plus en plus de pouvoir parce que la situation devient de plus en plus radicale ?
Ils sont en train de perdre la partie. Vous avez Jonathan Greenblatt, par exemple, qui est le directeur de l'ADL. Il a annoncé publiquement que pour la toute première fois depuis que l'ADL réalise des sondages d'opinion, la jeune génération est plus antisémite, pour reprendre son propre terme, que l'ancienne génération. Félicitations, Jonathan. C'est vraiment toi qui as réussi cela, avec tes propres actions. Et à ce stade, je pense que nous devons absolument introduire un concept que j'ai tiré de Hegel, appelé la ruse de la raison, Die List der Vernunft. Donc, pour synthétiser ce concept, Dieu permet l'existence du mal parce qu'il ne peut pas y avoir de libre arbitre sans la possibilité de commettre le mal, mais Dieu parvient à tirer le bien du mal qu'il autorise. Et ce que nous voyons ici, je le pense, c'est précisément les sionistes qui se détruisent eux-mêmes. Donc c'est un véritable problème, et même un problème majeur. Par exemple, qu'un riche sioniste achète TikTok, et comme ça ensuite on le censurera de fond en comble, et tout le monde quittera TikTok sans hésiter. Nous allons faire intervenir nos propres gens. Si vous donnez la parole à Mark Levin et au rabbin Shmuley, vous créez de l'antisémitisme. Ils sont en train de créer la chose même contre laquelle ils semblent protester. Franchement, c'est ahurissant. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont vraiment aveugles. Vous savez, j'étais à Strasbourg. Cette façade de la cathédrale de Strasbourg représente une synagogue. Et comment savez-vous que c'est une synagogue ? Parce qu'elle a les yeux bandés. Les sionistes sont malheureusement aveugles. Je pense sincèrement qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de provoquer l'exact opposé de ce qu'ils visent. Et je pense que c'est le mouvement de l'histoire humaine en ce moment même. Et c'est ce que l'on appelle « Zeitgeist », comme dirait Hegel. C'est le mouvement de la Vernunft, de la rationalité. C'est Dieu qui agit dans l'histoire humaine, permettant le mal pendant un temps, puis faisant surgir le bien de ce mal.
Ce sont vraiment des points très intéressants et je ne peux que répéter encore une fois à notre audience, aux gens qui nous regardent, qui doivent lire ce livre, qui a donc été traduit en français, parce qu'il est assez dense, c'est une compilation de nombreux textes et comme je l'ai dit, nous avons beaucoup de sujets à aborder et malheureusement, nous sommes limités dans le temps, donc il ne nous sera pas possible de pouvoir tout dire ce soir. Cependant, il y a un dernier sujet dont j'aimerais pouvoir parler, puisque nous avons, on va dire, précisé un problème. Nous avons parlé des différentes guerres, mais nous avons surtout parlé du problème de ce que nous pouvons appeler la cabale juive, que vous avez précisé comme étant les juifs, car nous devons utiliser ce mot spécifiquement, selon vous, pour cette conversation. Alors, donc, quelles pourraient être les solutions que vous proposez face à ces problèmes ? Et j'aimerais d'abord aussi vous demander plus de détails. À l'intérieur de votre livre, vous parlez de Roger Scruton, d'un livre en particulier intitulé Beauty, A Very Short Introduction. J'aimerais donc que vous nous donniez plus d'informations sur les raisons pour lesquelles, dans ce livre, traduit une nouvelle fois en français, nous pouvons voir l'œuvre de Roger Scruton analysée par vous et liée à cette question.
Alors, j'ai écrit un livre sur la beauté. Il s'intitule « Les dangers de la beauté ». Pour moi, la beauté est un transcendantal, et il existe trois choses ultimes, le bien, le vrai et le beau. Et donc, avec ces critères, quand vous êtes en présence du beau, vous êtes aussi en présence du vrai. Et donc, la figure dont j'ai parlé était Nathaniel Hawthorne, qui a par ailleurs écrit un grand roman intitulé « La lettre écarlate ». Dieu l'a récompensé en le menant à Rome. La lettre écarlate traite de l'incapacité des protestants à se confesser leurs péchés. Puis, il voit la cathédrale Saint-Pierre. C'est le plus beau bâtiment qu'il ait jamais vu de sa vie. En Angleterre, dans les années 1850, il n'existait pas de bâtiment comme celui-là. Il est submergé par sa beauté, et ensuite il se doit de demander « Est-ce que c'est vrai ?» C'est la question qui suit naturellement. C'est précisément pourquoi la beauté est si importante dans tout cela. J'ai, comme vous le savez bien, lu le livre de Scruton, et je dois absolument le dire, c'est un ouvrage qui est typiquement anglais. C'est vraiment un anglais pur jus. Les anglais ont leurs problèmes bien spécifiques pour moi, vous savez. Et la philosophie en fait certainement partie, tout comme l'esthétique d'ailleurs, c'est ce que je pense. Et donc, personne n'était plus qualifié pour parler de Richard Wagner que Roger Scruton, en raison de son parcours musical vraiment impressionnant. C'est un homme brillant, un esprit brillant. Il parle de l'opéra Das Rheingold et il prétend que c'est une œuvre sur le communisme. Non mais comment peut-on dire une chose aussi stupide? Das Rheingold, c'est une œuvre qui parle du capitalisme. C'est le mythe absolument génial de la fondation du capitalisme, qui repose entièrement sur le vol. Et il n'a pas su le voir à cause de son ethnocentrisme. Même chose pour Hawthorne. Il n'est pas devenu catholique à cause de son ethnocentrisme profond. C'est important, parce que cela vous transporte dans un royaume qui transcende tout cela. Mais Scruton n'a jamais vraiment saisi l'essence. Il a été aveuglé par ses propres limites. Il était bien plus intéressé par la chasse aux renards que par une compréhension profonde de Wagner, tout simplement parce qu'il était un Anglais typique.
Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a une vertu spécifique? Parce que, par exemple, il y a très certainement de la vertu dans la beauté qui permettrait de trouver la vérité. En tout cas, c'est une des parts de vos analyses. Donc, diriez-vous que l'une des solutions serait principalement de revenir au catholicisme ou principalement au christianisme? Parce que c'est aussi, je le sais, un énorme débat entre justement les catholiques romains et les chrétiens.
Il n'y a aucune solution possible ici en Amérique sans l'Église catholique, car elle domine désormais, selon moi, très clairement la communauté juive sioniste. Un conflit est en cours en ce moment même. Le conflit fondamental, comme je l'ai déjà souligné, est le suivant. Existe-t-il une loi morale universelle? C'est exactement ce que l'Église catholique propose avec une grande fermeté. Je dis que nous ne pouvons plus nous contenter de ces abstractions, de ces concepts vagues, comme les citoyens. Mais qui est donc ce type? Je ne sais pas qui il est. Il n'a aucune identité propre. Nous, nous parlons de la France en tant que pays catholique, avec son histoire et ses racines. Et d'ailleurs, dans mon livre, la raison pour laquelle j'ai mentionné Soral comme manquant de ce type d'identité, c'est parce que, selon moi, la réforme en France ne viendra pas des citoyens individuels isolés. Ce sera plutôt l'Église catholique qui revitalisera le pays dans son ensemble. Et j'affirme que la même chose s'applique à l'Irlande aujourd'hui, qui subit une invasion démographique massive et incontrôlée. À mon avis, l'Irlande a renié la foi catholique et Dieu les a punis en faisant venir des musulmans pour remplacer tous les enfants irlandais, sachant que l'avortement impacte la démographie là-bas. Je dis que vous ne pouvez absolument pas aborder cela uniquement en termes humains. Il ne s'agit pas de nous asseoir tranquillement pour écrire des lettres à nos représentants au Congrès. C'est une profonde bataille spirituelle concernant l'identité même de l'Occident. Et si l'Union européenne décide d'éliminer le catholicisme de sa propre compréhension de l'Europe, elle finira obligatoirement par devenir un État vassal de l'Empire américain, ce qui est en fait exactement leur situation à l'heure actuelle.
Donc on voit.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. The rush of racing? Nothing beats it. But Chumba Casino comes close. Chumba's got fast spins, fun games, daily bonuses, and all the action you can handle. Now that's a ride. Ready to hit the throttle? Get in the driver's seat and head to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Également une nouvelle idéologie qui est en train d'émerger, en particulier grâce aux technologies développées dans le monde entier, mais aussi en Occident. Lorsque nous parlons de devenir catholique ou de guerre de religion, nous savons également que nous désignons souvent une philosophie spécifique comme ennemi, ennemi historique de l'Occident, à savoir la philosophie des Lumières. Et nous avons maintenant un nouveau mouvement qui apparaît et qui gagne de plus en plus de pouvoir, j'ai l'impression, en particulier dans la Silicon Valley, c'est les Lumières sombres. Est-ce que vous avez une analyse spécifique à ce sujet? Pensez-vous qu'il s'agisse d'un nouveau mouvement qui peut avoir de l'avenir ou de la force? Ou pensez-vous qu'il s'agit tout simplement d'une mutation du mouvement des Lumières?
Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? C'est un oxymore. Parler de Lumières sombres est une contradiction dans les termes. C'est la lumière qu'ils ont apportée, la lumière de la raison elle-même. Les ténèbres, c'est l'Église catholique, vue comme un obstacle à cette clarté. C'est l'idéologie des Lumières qui oppose la raison à la foi traditionnelle. Sarastro dit, c'est exactement l'idéologie des Lumières qui promettait la clarté de la raison, et pourtant, elle a mené inévitablement aux ténèbres.
Donc je parle du mouvement qui, pour beaucoup, est représenté, par exemple, par Peter Thiel. Nous savons même que G.D. Vance a été influencé par cette mouvance intellectuelle. Donc on peut appeler ça le mouvement néo-réactionnaire, mais je sais qu'en anglais on va plutôt parler de Dark Enlightenment, et on a des personnalités aussi qui ressortent comme Curtis Yarvin ou Nick Land. Nous savons que ce mouvement gagne de plus en plus de pouvoir, il devient de plus en plus célèbre, mais j'aimerais savoir si vous avez en fait tout simplement une analyse de ce mouvement. Pensez-vous qu'il s'agit d'une mutation de cette cabale actuelle basée sur la technologie ou alors autre chose?
Eh bien, je n'ai absolument aucune confiance en Peter Thiel, pas du tout. Vraiment absolument aucune confiance en cette personne, et cela pour de bonnes raisons. Il y a cette utopie technocratique promue par Elon Musk que je trouve totalement contre-productive et en complète perte de contact avec la réalité actuelle. Je veux dire, cette idée de voyager sur Mars, dont il nous parle, est complètement absurde, c'est ridicule. Et maintenant, il dit qu'avec l'IA, on n'aura plus besoin de travailler. C'est de la folie. C'est d'une folie absolument incroyable. Et cela nous ramène directement à ce scientisme qui a servi de base à toute l'ingénierie sociale. Cette science issue des Lumières, même quelqu'un d'aussi respectable qu'Emmanuel Kant, a écrit « Zum ewigen Frieden » pour la paix éternelle et perpétuelle, dans lequel il affirmait que si nous avions du commerce, nous n'aurions pas de guerre. Eh bien, c'est absolument absurde. Aucun pays n'a davantage favorisé le commerce que les États-Unis d'Amérique, et aucun pays n'a été engagé dans plus de guerres. Les racines ne sont pas assez profondes. Nous ne parvenons pas au logos. Nous ne parvenons pas à l'être. Et c'est là tout le problème de la philosophie des Lumières. C'est la pensée, et ce n'est pas l'être. Nous devons être enracinés dans l'être, pas dans la pensée. Nous devons avoir des catégories basées sur la réalité, et non des catégories de l'esprit. Nous aurons alors la base pour changer.
Alors, finalement, je pose toutes ces questions parce que nous parlons de l'Empire américain qui a changé sa stratégie il y a quelques mois, plus précisément depuis l'arrivée au pouvoir de la nouvelle administration Trump. Nous avons vu la situation avec le Venezuela, avec le Groenland et également la situation avec l'OTAN, etc., ainsi de suite. Nous avons donc l'Empire américain qui veut récupérer autant de pouvoir que possible, car nous ne vivons plus dans un monde unipolaire, mais multipolaire. Nous avons maintenant donc différentes forces qui ne se combattent pas entre elles, mais qui ont une voix forte, comme la Chine, les BRICS ou la Russie, etc. C'est pour ça que je pose les questions sur les lumières sombres, parce que si nous nous concentrons sur l'avenir, nous demanderons toujours qui pourrait être le prochain dirigeant d'un pays. Et pour les États-Unis, je sais que beaucoup de gens pensent que J.D. Vance a de grandes chances de devenir le prochain président des États-Unis. Et nous savons qu'il est censé être catholique. Mais il a également été financé et influencé par Peter Thiel, qui donc suit en partie cette philosophie des Lumières sombres. Donc, que pensez-vous de J.D. Vance et peut-on lui faire confiance? Pensez-vous qu'il peut aider à ramener ce que vous voulez en Amérique?
Je ne pense pas qu'il raisonne en catégorie catholique. Il n'est pas obligatoire d'être philosophe pour être catholique, mais si vous désirez avoir une influence sur le monde en tant que catholique, il est préférable de posséder des catégories philosophiques directes et justes. Personnellement, je ne vois aucune profondeur chez J.D. Vance. Je pense qu'il n'inspire pas confiance au Vatican par la façon dont il se comporte en tant que catholique. Je ne veux pas jeter le discrédit sur le catholicisme de qui que ce soit, soyons clairs. Je ne suis pas ici pour juger votre catholicisme ou dire que vous êtes un catholique de seconde zone et moi un catholique de première zone. Mais il y a une profondeur philosophique dans le catholicisme qu'aucune autre religion ne possède vraiment. Aucune autre religion, absolument aucune. Car il faut comprendre que le catholicisme, c'est le véhicule du Logos dans l'histoire humaine, et le Logos est lui-même le véhicule de Dieu, la manière précise dont Dieu entre dans l'histoire humaine et s'y manifeste. Et si quelqu'un ne comprend pas cela, je n'attends vraiment pas de grandes choses de cette personne. Vous savez, je vais vous donner un exemple concret. Dans la ville de New York, nous venons tout juste d'élire un maire musulman. Donc avec cet événement, nous sommes actuellement au moment où un nouveau groupe ethnique est en train d'émerger en Amérique, le musulman américain. Il s'intègre parfaitement dans ce que j'appelle le triple melting pot, vous savez. Il remplacera les protestants dans une certaine mesure, vous comprenez? Et Mme Dani ne comprend pas cela du tout. Le problème, c'est qu'il ne comprend pas la réalité ethnique. C'est pourquoi il n'invite pas le cardinal archevêque de New York à sa propre investiture, par exemple. Et lorsque le nouvel archevêque cardinal est officiellement intronisé, il ne se rend même pas à son investiture. Ici, vous avez un homme qui ne saisit pas la réalité ethnique en Amérique et qui ne comprend absolument pas la base ethnique de la politique. Il nous faut absolument atteindre ce niveau de sophistication. Alors, j'étais présent à Mashhad, à l'époque où Alexandre Douguin s'y trouvait et qu'il parlait du concept de monde multipolaire. Et j'ai dit, « Je comprends parfaitement ce que vous dites, mais nous parlons tous anglais à Mashhad. Cela signifie qu'il y a une sorte de principe unificateur qui est en train de se produire dans le monde entier. Et ce à quoi je le comparerais, c'est Alexandre le Grand, qui a unifié des cultures diverses par sa conquête. » Quel était le but, le dessein de Dieu pour Alexandre le Grand? Est-il un saint? Non. A-t-il accompli la volonté de Dieu? Oui. Comment a-t-il accompli la volonté de Dieu? En répandant le Logos. Par quel moyen? Par la diffusion de la langue et de la culture grecque dans le monde antique. Et donc cela a permis l'émergence de l'Église catholique en tant que véritable puissance philosophique capable d'intégrer tous ces éléments. Et donc, quand ils ont eu ce débat, un débat vraiment crucial, pour déterminer si Jésus-Christ était Dieu ou homme, ils ont dû en débattre en grec, parce qu'il faut disposer d'un langage philosophique sophistiqué pour pouvoir aborder et résoudre une telle question. Vous comprenez? Dieu a-t-il voulu toute la méchanceté de l'Empire américain? Non. Peut-il utiliser cette méchanceté? Oui. Vous savez, j'aimerais tellement que nous parlions en français. Si c'était il y a 100 ans, nous serions probablement en train de parler en français. Mais à présent, nous nous exprimons en anglais. Tout simplement parce que l'anglais est devenu la langue véhiculaire mondiale. Et je soutiens que nous devons développer un contenu catholique, un contenu philosophique qui soit profondément enraciné dans l'être même des choses et non pas seulement dans la pensée ou la raison, ce qui constitue précisément pour moi le problème fondamental des Lumières. Et je pense que nous avons bel et bien les outils nécessaires et que ça se passe maintenant, en ce moment précis. Je reçois tous ces appels et j'ai toutes ces conversations avec des musulmans du monde entier parce que je pense que c'est exactement le moment opportun. Il y a une conscience mondiale qui émerge maintenant, malgré toutes les difficultés et les obstacles. Alors, je reviens à Hegel encore une fois. Vous savez, j'aime vraiment Hegel. « Die Eule von Minerva fliegt meist bei einbrechender Dämmerung ». Ça veut dire « La chouette de Minerve ne prend son envol qu'au crépuscule ». Et c'est là où nous en sommes. Nous sommes au crépuscule de l'Empire. C'est là que la chouette de la sagesse commence à émerger, quand les vieilles structures s'effondrent et qu'une nouvelle structure commence à apparaître. C'est vraiment là, je le répète, que nous en sommes.
Donc nous pourrions avoir ce grand changement d'un point de vue métaphysique et religieux. Mais j'ai une toute dernière question pour cette interview et je pense qu'elle complétera d'ailleurs parfaitement votre analyse. Car nous savons que nous parlons d'État, de pays, en tant que structure de pouvoir. Nous sommes donc dans un système économique, plus précisément, je dirais, celui de l'Occident. Nous savons que l'Empire américain donc tente de retrouver sa puissance. Quand nous entendons, par exemple, Donald Trump dire « Make America Great Again », on va dire que cela concerne également l'économie. Et je sais que dans votre livre, vous analysez ce qui est pour vous le grand problème auquel nous sommes confrontés en Occident, et qui est le problème des banques, mais pas uniquement, c'est des banques et surtout de l'usure. Que pouvez-vous dire à ce sujet et que pensez-vous qu'il va se passer avec le système actuel que nous avons et qui pourrait être sur le point de s'effondrer potentiellement totalement?
Alors oui, j'ai écrit un très long livre qui fait plus de 1000 pages et qui s'intitule « Métal stérile ». Une histoire du capitalisme comme le conflit entre le travail et l'usure. Car au fond, il n'y a que deux options, le travail d'un côté et l'usure de l'autre. Le travail, c'est la source de toute valeur. Qui a dit cela, à votre avis? C'est Karl Marx qui l'a affirmé. Adam Smith l'a affirmé, John Locke l'a dit aussi, et le pape Jean-Paul II l'a déclaré. Donc c'est une vérité. En fait, pour ce groupe si différent, le travail est la source de toute valeur. En cette année dont j'ai parlé précédemment, 1973, aux États-Unis, l'Amérique a tourné le dos au monde du travail. 2 ans plus tard, elle a commencé à se tourner vers l'usure. Les cartes de crédit, en effet, sont une forme pure et évidente d'usure. La même chose s'est produite à l'échelle mondiale. Un événement important, qui était en 1975, si je me souviens bien, quand Valéry Giscard d'Estaing a invité tous les dirigeants, comme Helmut Schmidt, Jimmy Carter, Margaret Thatcher, au château de Rambouillet. Et ensemble, ils ont détruit le travail domestique, en favorisant des politiques qui l'ont miné. C'est de cela qu'il s'agissait. C'était l'instauration du système mondial. Alors, on a fait tout construire par les Chinois parce que la main-d'œuvre était bon marché. Ce fut une grave erreur. Nous devons revenir sur cette erreur. Et l'homme qui le dit à présent, c'était Howard Lutnick. Howard Lutnick est allé à Davos et a dit ceci. Il le répète. Maintenant, qu'il y parvienne, c'est une autre histoire. Mais nous devons nous détourner de l'usure et revenir au travail. Nous devons recommencer à produire des choses, car c'est la seule source de valeur.
Et donc, est-ce que vous pensez, ou plutôt, est-ce que vous faites un lien avec le sujet dont nous avions parlé, qui était en quelque sorte la cabale, et ce point-là que vous venez de développer? Et si la réponse est oui, si nous parlons par exemple de Wall Street, est-ce que vous pensez qu'un changement est également à venir bientôt?
Alors oui, je crois vraiment qu'un grand changement est en approche. Je pense que le moment est venu d'instaurer un impôt sur la fortune. Et je me porte personnellement volontaire. J'emmènerai Paul Singer tout en haut du plus grand gratte-ciel de New York et je le tiendrai fermement par les chevilles et je le secouerai sans relâche jusqu'à ce que tout l'argent tombe de sa poche, car il n'a absolument pas mérité cet argent. Saint Thomas d'Aquin a écrit à la duchesse de Brabant. Elle lui disait « Les usuriers contrôlent toute notre économie. Que devrions-nous faire ?» Et Saint Thomas d'Aquin répond, alors que ce n'est pas un communiste, « Confisquer cet argent, exproprier cet argent. Ils n'ont aucun droit à cet argent. » Et je dis la même chose à propos des gains usuraires de Wall Street. Des milliers de milliards de dollars sont allés dans les poches de Wall Street. Cet argent a été volé aux travailleurs des États-Unis. Et nous, en tant que peuple, un gouvernement a le droit de le reprendre. Maintenant, comment faire cela? C'est une toute autre question. Mais je pense que Mamdani parle maintenant de taxer Wall Street. C'est donc dans l'air. La question est de savoir si nous pouvons le faire avec succès.
Bon, eh bien, nous arrivons à la fin de cette interview. Merci encore beaucoup d'avoir participé à cette émission et j'espère que vous avez réussi à survivre à mon accent français. Et oui, parce que c'est un exercice toujours difficile pour moi, car je pense en français et souvent, eh bien, j'ai du mal à trouver les mots. Mais bref, comme nous réalisons cette interview pour un public français, la situation politique actuelle est assez difficile en France. Nous avons Macron qui est censé partir bientôt, à savoir l'année prochaine, et nous ne savons pas quel parti prendra le pouvoir. Nous avons également l'influence de l'Europe, ou plutôt dirais-je de l'Union européenne, qui contrôle certains, si ce n'est beaucoup, d'aspects pour les pays, et notamment la France, et ne nous permet donc pas d'obtenir une certaine indépendance, et je dirais même liberté. Donc avec tout ce que vous avez dit sur les États-Unis, sur l'Occident en général, quel serait votre message au public français qui écoutera cette interview?
L'Occident a échoué. C'est exactement ce que Denethor dit dans « Le Seigneur des Anneaux ». Qu'est-ce que je veux dire par là, avec cette référence? Eh bien, l'Occident a été corrompu partout, par les Lumières, par la Révolution française, etc. Je pense qu'il est temps de revenir aux racines catholiques de la France, d'exproprier les expropriateurs, de chasser les usuriers, de revenir au travail comme source de toute valeur, d'éliminer l'influence de la communauté, que j'ai mentionnée, par la pornographie et toutes ces autres choses. Il faut que ce soit un véritable renouveau spirituel. Et la seule et unique source de ce renouveau spirituel ne pourra être que l'Église catholique. Alors je demande solennellement aux Français de revenir à leurs racines catholiques et d'abandonner définitivement les catégories obsolètes de la Troisième République. Elles sont de toute façon vouées à disparaître. Je le dis et le répète, c'est la fin de l'Empire américain. Et ça devrait être la résurgence de l'identité française hors de cet état vassal qu'ils étaient pour l'Amérique. Et j'affirme que cela ne peut se produire qu'en étroite collaboration avec l'Église catholique, car je pense que c'est là, la véritable identité de la France.
Je pense que c'est un excellent message. En conclusion, merci beaucoup, Dr. E. Michael Jones. Comme je l'ai dit, nous avons principalement parlé d'un livre, traduit en français par nos camarades des éditions du Verbe Haut. Il y a d'ailleurs un code promotionnel lorsque vous allez commander sur le site avec le code GPTV tout en minuscule. Et on remercie aussi Maria Poumier pour la traduction, donc l'ouvrage Les guerres culturelles en Occident. C'est le titre français, vous trouverez le lien dans la description pour pouvoir passer à l'attaque et à la lecture. J'espère avoir l'occasion, Monsieur Jones, de vous interviewer à nouveau, car nous avons abordé que brièvement certains sujets et nous avons encore beaucoup de choses dont il faudrait discuter.
Encore une fois, merci beaucoup. Ce fut un grand plaisir de vous parler aujourd'hui et d'avoir pu partager ces idées avec vous. Vous savez, j'étais un existentialiste quand j'avais 17 ans. Et je garde bien en mémoire le souvenir de cette époque en France, où Paris était vraiment le centre de l'univers intellectuel. Merci particulièrement à Maria Poumier de m'avoir permis d'être présenté au public francophone de cette manière. Merci infiniment.
Thank you very much.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.